Résurrection, troisième partie. Chapitre 1. Le convoi des prisonniers, dont faisait partie la Maslova, avait traversé plus de 5000 verstes. Jusqu'à Perm, le convoi avait voyagé en chemin de fer et en bateau à vapeur, et la Maslova était restée en compagnie des criminels de droit commun. Mais à Perm, Nekhludov avait pu obtenir qu'elle fût admise dans la section des condamnés politiques. L'idée de ce transfert lui avait été suggérée par Vera Bogudochovska, qui faisait partie du même convoi. Le voyage jusqu'à Perm avait été très pénible pour la Maslova, aussi bien au point de vue physique qu'au point de vue moral. Physiquement, elle avait eu à souffrir du manque d'air, de la saleté, de la puanteur et de la persécution que lui avaient fait subir toutes sortes de répugnants insectes acharnés contre elle. Moralement, elle avait souffert, peut-être plus encore, de la persécution que lui avaient fait subir des hommes non moins répugnants que ces insectes et non moins acharnés contre elle. À toutes les étapes, elle avait eu à repousser d'ignobles instances qui ne lui avaient pas laissé un moment de repos et dont le souvenir maintenant lui soulevait le cœur. Entre les prisonniers et les prisonnières et les gardiens du convoi et même les chefs, s'étaient établis, suivant l'usage, des relations d'un cynisme si éhonté que toute femme, en particulier toute jeune femme, avait à se tenir jour et nuit sur ses gardes, pour peu qu'elle ne fût point disposée à se mettre au ton de la corruption générale et à en profiter. Rien n'était plus fatigant que cet état continu d'alarme et de résistance, sans compter que la Maslova était infiniment plus exposée encore que ses compagnes aux propositions galantes des prisonniers et des gardiens, tant à cause du charme extérieur de toute sa personne qu'à cause de ce qu'on savait de sa vie passée. Et le refus obstiné qu'elle opposait à ses propositions était volontiers considéré comme un affront, de sorte que tous les jours elle avait senti la malveillance grandir autour d'elle. Sa situation aurait même fini par devenir intolérable si elle n'avait pas eu, pour se consoler, la société de l'excellente Fedosia, et aussi celle de Taras, le mari de Fedosia, qui, en apprenant la façon dont se trouvait mise à l'épreuve la vertu de sa femme, pour pouvoir la mieux protéger, avait renoncé à sa liberté, et depuis Nijni Novgorod s'était fait admettre parmi les prisonniers. La situation de la Maslova s'était heureusement fort améliorée, et en toute façon, lorsque la jeune femme avait obtenu d'être transférée dans la section des condamnés politiques. Non seulement, en effet, les condamnés politiques étaient mieux logés et mieux nourris que les condamnés de droit commun, non seulement la Maslova trouvait chez ses nouveaux compagnons moins de rudesse et de grossièreté, mais son transfert parmi eux l'avait délivrée de toute agression galante et lui avait permis de recommencer à oublier ce passé que, sans cesse, jusque-là, on avait pris soin de lui remettre en mémoire. Et ce n'était pas tout. Son transfert avait eu encore pour elle un autre avantage précieux. Il lui avait fourni l'occasion de faire connaissance avec certaines personnes qui n'avaient point tardé à exercer sur elle une influence décisive. La faveur sollicitée pour elle par Nekhludov consistait d'ailleurs simplement à loger durant les étapes avec les condamnés politiques. D'une étape à l'autre, elle continuait à faire la route à pied, comme le reste des condamnés de droit commun. Et c'est ainsi que, depuis Tomsk, elle avait fait toute la route à pied. Avec elle marchaient deux condamnés politiques. Marie Pavlovna Tchétinine, la belle jeune fille aux yeux bleus, que Nekhludov avait vue dans le parloir de la prison, le jour de sa visite à Vera Bogudochovska, et un nommé Simonson, un petit homme noir, avec de grands yeux profondément creusés. Marie Pavlovna faisait la route à pied parce qu'elle avait cédé sa place dans la voiture à une condamnée de droit commun qui était enceinte. Simonson faisait la route à pied parce qu'il considérait comme injuste, pour lui, de profiter d'un privilège fondé sur la distinction des castes sociales. Ces trois prisonniers avaient à se lever plus tôt que les autres condamnés politiques et, sitôt levés, à rejoindre le cortège des condamnés de droit commun. Ainsi, ils étaient arrivés jusqu'à une étape où un nouvel officier de police avait pris la direction du convoi. La matinée de septembre était humide et sombre. La neige alternait avec la pluie, par instants soufflait une bise glacée. tous les prisonniers du convoi qui devaient marcher à pied, 400 hommes et une cinquantaine de femmes, remplissaient la cour de l'étape. Les uns se pressaient autour du chef du convoi, qui leur distribuait la paye de la journée. Les autres achetaient des provisions aux marchandes qu'on avait autorisées à pénétrer dans la cour. Celle-ci était toute bourdonnante du bruit des voix. Les prisonniers comptaient leur argent, bavardaient, se querellaient entre eux ou avec les marchandes. La Maslova et Marie Pavlovna, toutes deux vêtues de courtes pelisses et chaussées de bottes, avec un fichu sur la tête, sortirent de la pièce où elles avaient passé la nuit et se dirigèrent vers l'endroit de la cour où, à l'abri du vent, s'étaient rangées les marchandes, étalant devant elles leurs diverses denrées. Des pains frais, des poissons, des pâtés, des tranches de bœuf, des œufs, du lait. L'une d'elles avait même apporté un petit porc rôti. Simonson, vêtu d'une veste de caoutchouc et chaussée de galoches, car il était végétarien et n'admettait point qu'on pût utiliser ni la chair ni le cuir des animaux, était dans la cour de l'étape lui aussi, attendant l'ordre du départ. Debout près de la porte de sortie, il inscrivait sur son calepin une réflexion qui lui était venue. Voici cette réflexion. Si un microbe pouvait observer et étudier un ongle humain, il en tirerait la conclusion que cet ongle fait partie d'un ensemble inorganique. Et de même, nous raisonnons quand, après avoir étudié l'écorce extérieure du globe, nous affirmons que la Terre est un être inorganique. La Maslova s'occupait à caser dans son sac les œufs, le hareng et le petit pain qu'elle venait d'acheter. Et Marie Pavlovna s'occupait à en régler le paiement avec la marchande, lorsqu'un mouvement soudain se produisit dans la cour. Les gardiens venaient de se ranger près de l'officier, et l'on allait procéder aux formalités qui, tous les matins, précédaient le départ. Suivant l'usage quotidien, les prisonniers furent comptés. On examina l'état de leur chaîne. On mit les menottes à ceux qui devaient marcher deux par deux. Mais, tout à coup, rompant la monotonie habituelle de ces formalités, un cri de colère se fit entendre, poussé par l'officier, et aussitôt suivi de pleurs d'un enfant. Puis, dans toute la cour, un profond silence. Et, dès l'instant suivant, un murmure confus se répandait à travers la foule. La Maslova et Marie Pavlovna coururent s'informer de ce qui se passait. Chapitre 2. Dès qu'elles se furent approchées du groupe formé au milieu de la cour, elles virent ceci. L'officier, un gros homme aux longues moustaches blondes, essuyait de la main gauche son poing droit, tout rouge de sang, et, la mine furieuse, ne cessait pas de crier des injures à un prisonnier qui, debout devant lui, couvrait d'une main son visage meurtri et sanglant, tandis que de l'autre, il serrait contre lui une petite fille enveloppée dans un châle, et pleurant et hurlant de toutes ses forces. Le prisonnier avait la moitié de la tête rasée. C'était un homme long et maigre, vêtu d'une veste trop courte et d'un pantalon qui lui découvrait les chevilles. « Je t'apprendrai à raisonner, » disait l'officier, entremêlant d'injures chacun de ses mots. « Allons, mets l'enfant par terre, et hâte-toi de reprendre tes menottes. » Ce forçat avait obtenu d'avoir les mains libres, les jours précédents, pour pouvoir porter sa petite fille, dont la mère était morte du typhus à l'une des étapes. Mais ce jour-là, le nouvel officier, qui se trouvait être de mauvaise humeur, avait exigé qu'on lui remît les menottes. Le forçat avait protesté. L'officier agacé lui avait asséné un coup de poing sur l'œil. De l'autre côté de l'officier se tenait un énorme forçat à barbe noire, qui, avec une menotte à une de ses mains, regardait d'un air maussade tour à tour l'officier et son malheureux compagnon. L'officier, cependant, tout en continuant à vociférer des injures, répétait au gardien l'ordre d'emmener l'enfant et de mettre les menottes au père. Dans la foule, le murmure devenait sans cesse plus fort. « On lui a laissé les mains libres depuis Tomsk, » disait une voix enrouée au dernier rang. « Ce n'est pas un petit chien, c'est un enfant. » « La petite fille va périr, » disait une autre voix. « Ce n'est pas dans la loi. Quoi, quoi ?» cria l'officier, se retournant comme si une bête l'avait mordu. « Je t'apprendrai, moi, à parler de la loi. Qui a parlé ? Est-ce toi ? Est-ce toi ?» Tout le monde a parlé, parce que, dit un prisonnier debout au premier rang. « Quoi ? Alors c'est toi ?» Et l'officier se mit à frapper devant lui au hasard des coups. Ah, vous vous révoltez. Je vais vous montrer, moi, comment on se révolte. Je vous tuerai comme des chiens. Et les chefs me remercieront d'avoir réglé votre compte. Allons, qu'on emmène l'enfant. » La foule se tut. Un des gardiens saisit l'enfant qui hurlait sans interruption. Un autre mit les menottes au prisonnier qui humblement tendait sa main. « Qu'on donne cet enfant à garder aux femmes, » dit l'officier au gardien, fort embarrassé de l'encombrant fardeau. La petite fille, le visage tout rouge sous ses larmes, se débattait furieusement, essayant de retirer ses mains du châle qui l'enveloppait. À ce moment, Marie Pavlovna traversa la foule et s'approcha de l'officier. « Monsieur, dit-elle, si vous me le permettez, je porterai l'enfant. »« Qui es-tu, toi ? » demanda l'officier. « Je suis de la section des condamnés politiques. » Le joli visage de Marie Pavlovna, avec ses yeux bleus et ses cheveux noirs, agite évidemment sur l'officier, qui avait déjà remarqué la jeune fille l'instant d'auparavant. Il la regarda encore, puis baissa les yeux d'un air gêné. « Cela m'est égal. Portez-la tant que vous voudrez. S'il se sauve, ce n'est pas vous qui aurez à en répondre. « Comment voulez-vous qu'on se sauve avec un enfant dans les bras ? » demanda Marie Pavlovna. « Je n'ai pas à discuter avec vous. Prenez l'enfant si vous voulez et en route. »« Puis-je donner l'enfant ? » demanda le gardien. « Oui, et plus vite que ça. » « Viens sur mon bras, » dit Marie Pavlovna à l'enfant, en essayant de la prendre des mains du gardien. Mais la petite fille ne voulait pas aller sur d'autres bras que ceux de son père. Elle continuait à se débattre et à pousser des cris. « Attendez, Marie Pavlovna, moi elle me connaît et peut-être consentira-t-elle à ce que je la prenne, » dit la Maslova en tirant de son sac le petit pain blanc. L'enfant, en effet, connaissait la Maslova. Dès qu'elle l'aperçut, elle cessa de crier et se laissa prendre. Il y eut de nouveau un silence. Les portes de la cour s'ouvrirent, le convoi sortit, et devant les portes se mit en rang. On compta une seconde fois les prisonniers. La Maslova, tenant l'enfant sur son bras, échangea quelques mots avec Fedosia, placée à quelques rangs devant elle. Soudain, Simonson, qui avait assisté sans rien dire à toute la scène, s'avança d'un pas décidé vers l'officier déjà installé dans sa voiture. « Vous avez mal agi, monsieur l'officier, » lui dit Simonson. « Rejoignez votre rang, ce n'est pas votre affaire. Mon affaire est de vous dire ce qui est, et je vous répète que vous avez mal agi, » reprit Simonson en regardant fixement l'officier sous ses épais sourcils noirs. « On est prêt ? En avant, marche !» cria l'officier, après s'être détourné de Simonson avec un haussement d'épaule. Le convoi s'ébranla et se mit en marche, le long de la route boueuse que bordait sur les deux côtés un fossé rempli d'eau. Chapitre 3. Après la vie corrompue et honteuse que la Maslova avait menée depuis 8 ans, d'abord en compagnie des prostituées, puis en compagnie des criminels, la vie qu'elle menait à présent en compagnie des condamnés politiques ne pouvait manquer de lui paraître agréable, malgré tout ce qu'avaient de pénible les conditions spéciales où elle se trouvait. Les 20 verstes qu'elle faisait à pied les jours de marche, les fréquents repos, car le convoi avait un jour de repos après 2 jours de marche, la bonne nourriture, la possibilité de dormir dans un bon lit, tout cela lui rendait des forces et la rajeunissait, tandis que d'autre part, la société de ses nouveaux compagnons lui révélait des sources d'intérêt et de plaisir dont elle n'avait jusqu'alors jamais soupçonné l'existence. Non seulement, en effet, elle n'avait point connu jusque-là de personne aussi extraordinaire, suivant son expression, que ces révolutionnaires dont elle partageait à présent la vie, mais elle ne s'était même pas doutée qu'il y eût au monde de semblables personnes. Et d'abord, elle avait trouvé étranges les motifs qui faisaient agir ces personnes. Mais très vite, elle les avait compris, et avec sa nature de paysanne, elle s'était mise de tout son cœur à les admirer. Elle avait senti tout au moins que ces personnes avaient pris le parti du peuple contre l'autorité. Et comme elle savait que ces personnes appartenaient elles-mêmes à la classe qui constituait l'autorité, l'idée qu'elles avaient sacrifié pour le peuple leurs privilèges, leur liberté et leur vie rendait plus vive encore son admiration pour elles. Elle admirait tous ses nouveaux compagnons. Mais plus que tous les autres, elle admirait Marie Pavlovna. Et non seulement elle l'admirait, mais elle s'était prise pour elle d'une véritable passion, où le respect se mêlait à l'enthousiasme. Elle avait été frappée dès le premier jour de voir comment cette belle jeune femme, riche, instruite, noble, fille d'un général, se donnait l'apparence d'une simple paysanne, distribuant à d'autres tout l'argent et tous les effets que lui envoyait son père, et s'habillant non seulement sans aucun luxe, mais d'une façon qui semblait destinée à cacher le plus possible sa beauté naturelle. Et plus tard encore, lorsqu'il n'y avait pas une seule des qualités de Marie Pavlovna dont la Maslova ne fût émerveillée, aucune de ces qualités ne l'émerveillait autant que l'absence complète de toute coquetterie. Non que Marie Pavlovna ne se rendît pas compte de sa beauté. Elle s'en rendait compte, et la Maslova crut même deviner que la conscience d'être belle lui faisait plaisir. Mais, loin de se réjouir de l'impression que sa beauté faisait sur les hommes, elle la redoutait, éprouvant une véritable répulsion pour tout ce qui, de près ou de loin, ressemblait à de l'amour. C'est ce que savaient ses compagnons, et ceux même qui se sentaient attirés vers elle faisaient en sorte de n'en rien laisser voir. La coutume était, dans le parti, de se comporter envers elle comme si elle eût été un homme, au lieu d'être la charmante jeune fille qu'elle était. Mais, en dehors de son parti, maintes fois des hommes l'avaient poursuivie de leur galanterie, et maintes fois elle avait dû recourir à la force de ses deux poings pour se mettre à l'abri de leur insistance. Un jour, racontait-elle en riant à la Maslova, voilà qu'un monsieur m'aborde dans la rue, me saisit par le bras, et à aucun prix ne veut me lâcher. Alors je l'ai secoué, et de telle façon qu'il a eu peur, et qu'il s'est sauvé de toutes ses jambes. Elle raconta également à la Maslova comment elle était devenue révolutionnaire. Depuis l'enfance, elle s'était sentie peu de goût pour la vie des riches, et au contraire un goût très fort pour la vie des petites gens. Toujours on l'avait grondée parce qu'elle passait ses journées à l'office, à la cuisine, à l'écurie, au lieu de rester au salon. Et moi, je m'amusais avec la cuisinière, et avec les dames, je m'ennuyais. Et tous les jours, je découvrais davantage combien était stupide la vie qu'on voulait me faire mener. Ma mère était morte pendant que j'étais encore toute petite, mon père ne s'occupait pas de moi. À 19 ans, je me suis enfui de la maison, avec une amie, et nous nous sommes engagés comme ouvrières dans une fabrique. Elle n'était restée dans cette fabrique, d'ailleurs, que quelques semaines. Elle était allée ensuite demeurer à la campagne, puis était revenue en ville, s'était occupée de propagande, et avait fini par être arrêtée et condamnée aux travaux forcés. Marie Pavlovna n'ajoutait pas, mais la Maslova n'avait pas tardé à apprendre d'autre part qu'elle avait été condamnée aux travaux forcés pour s'être déclarée l'auteur d'un meurtre que, en réalité, elle n'avait point commis. Où qu'elle fût, dans quelques conditions qu'elle se trouvât, Marie Pavlovna ne pensait jamais à elle-même, et jamais ne pensait qu'au moyen de rendre service à autrui. Un des révolutionnaires qui faisait partie du convoi, Novodvorov, disait d'elle, en plaisantant, qu'elle s'était consacrée tout entière au sport de la bienfaisance. Et c'était vrai. De même que l'unique préoccupation du chasseur est de lever du gibier, de même l'unique objet de la vie de cette jeune fille était de découvrir l'occasion de rendre service. Et ce sport était devenu pour elle une habitude, était devenu le fond de sa nature. Et elle le pratiquait si simplement que tous ceux qui la connaissaient avaient fini par ne plus s'en étonner et par en profiter comme d'une chose toute simple. Quand la Maslova s'était jointe au groupe des condamnés politiques, Marie Pavlovna avait d'abord éprouvé pour elle un certain dégoût. Et la Maslova, qui s'en était tout de suite aperçue, s'était aussi aperçue que la jeune fille, faisant effort sur soi, lui témoignait encore plus d'égards qu'aux autres. Ces égards, que lui témoignait une créature qui lui paraissait supérieure non seulement à elle-même, mais au reste des hommes, ces égards avaient si profondément touché la Maslova que de toute son âme elle s'était livrée à la jeune fille, adoptant aveuglément toutes ses idées et, à son insu, ne rêvant plus rien que de lui ressembler. Et cette affection passionnée avait touché Marie Pavlovna. Et elle aussi s'était prise d'amitié pour la Maslova. Elles avaient, au reste, pour les unir, un sentiment commun. Toutes deux éprouvaient la même aversion pour l'amour sexuel. La seule différence était que la Maslova éprouvait cette aversion parce qu'elle avait mesuré toute l'horreur de l'amour sexuel, tandis que Marie Pavlovna l'éprouvait parce que, sans connaître l'amour sexuel, Elle le considérait comme une chose à la fois incompréhensible et laide, un obstacle à la réalisation du haut idéal humain qu'elle s'était formé.